Merci d'écouter RFI, 23h en temps universel. Il est minuit ici à Paris. Le journal est présenté par Mathis Limano. Bonsoir Mathis.
Et bonsoir Arthur. Arthur Ponchelet pour l'actualité africaine. Dans le reste du monde, les Européens affichent un front uni derrière l'Ukraine. Réunis à Bruxelles ce jeudi autour de Volodymyr Zelensky, les images contrastées après le clash à la Maison-Blanche avec Donald Trump. Les Européens ont donné leur aval au plan visant à réarmer l'Europe et soutenir Kiev. Un plan à 800 milliards d'euros. L'Europe et l'Ukraine sont à un moment décisif, a estimé la présidente de la Commission européenne. Qui peut croire que la Russie s'arrêtera à l'Ukraine ? L'avertissement lancé par Emmanuel Macron mercredi lors de son allocution à la télévision française. Les voisins de Moscou sont bien placés pour le savoir, à l'image de la Lituanie, qui a pris ce jeudi la décision de se retirer d'un traité sur les armes. Une décision jugée problématique. On vous explique pourquoi. Et puis quand les sociétés privées concurrencent les nations dans la course à l'espace, ce jeudi, une sonde privée américaine s'est posée sur la Lune, non sans encombre. Les Européens unis derrière l'Ukraine, c'est l'image que les 27 ont voulu afficher ce jeudi à Bruxelles en présence de Volodymyr Zelensky, une semaine après le clash à la Maison-Blanche et les suspensions successives de l'aide militaire américaine. Les 27 ont donc donné leur feu vert au plan de la Commission européenne baptisé « Réarmer l'Europe », quelques 800 milliards d'euros afin d'accroître les capacités militaires du vieux continent et soutenir l'Ukraine. Un plan boudé, sans surprise, par le Premier ministre hongrois, le très pro-russe Viktor Orban. Volodymyr Zelensky a lui tenu à remercier les partenaires européens d'être restés aux côtés de Kiev et ce depuis le début de l'invasion russe. Écoutez-le.
Je tiens tout d'abord à remercier tous nos dirigeants européens pour ce signal fort de soutien constant qu'ils envoient depuis le début de la guerre, tout au long de cette période et la semaine dernière aussi. Vous êtes restés à nos côtés. Et nous, Ukrainiens, sommes très reconnaissants de ne pas être seuls. Et ce ne sont pas seulement des mots, nous le ressentons. C'est très important que vous ayez envoyé un signal fort au peuple ukrainien, aux combattants ukrainiens, aux civils, à toutes nos familles. C'est bien que nous ne soyons pas seuls. Nous le ressentons et nous le savons. Merci.
Et les dirigeants européens, lors de ce sommet, ont martelé leur soutien à Kiev. L'Europe et l'Ukraine sont à un moment décisif, a estimé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le chancelier allemand sortant, Olaf Scholz, a lui refusé toute paix qui serait imposée par Moscou et Washington. Ce sommet intervient alors que l'Ukraine et les États-Unis reprennent tant bien que mal le dialogue. Volodymyr Zelensky sera la semaine prochaine en Arabie Saoudite avec son équipe pour rencontrer une délégation américaine. Donald Trump a assuré avoir reçu une lettre du président ukrainien comportant des excuses après le clash à la Maison-Blanche. Un premier pas positif, d'après le président américain. Et alors que la menace russe pousse ses voisins les plus proches à se préparer au pire, dans les pays baltes, la Lituanie renforce sa défense. Et cela passe par une décision critiquée. Vilnius a quitté ce jeudi un traité international pour utiliser des bombes à sous-munitions. Les ONG dénoncent une décision calamiteuse car ces armes tuent principalement des civils. Julien Chavanne.
La Russie utilise toutes les armes possibles. Nous devons faire pareil. Voilà comment la Lituanie justifie sa décision. Mais pour Elliot de Faramond d'Amnesty International, c'est une mauvaise raison.
Pour nous, c'est un argument qui n'est pas valable. D'une part, par rapport au coût humain entraîné par ces armes, avec une écrasante majorité de victimes civiles, et puis un argument sur l'efficacité militaire et la dissuasion fallacieux à notre sens. L'Ukraine a eu le loisir de les utiliser, cela n'a pas empêché la Russie de l'envahir.
La Lituanie est le premier pays européen à quitter un accord sur les armes, et en pleine période de réarmement général, d'autres risquent de suivre, s'inquiète l'ONG.
C'est la première fois qu'un État parti à un traité de désarmement se désengage, dans un moment où ces normes de protection des civils doivent être renforcées et sont plus utiles que jamais. Nous le rappelons, ces normes, elles ont été édictées en cas de conflit et donc elles doivent s'appliquer aujourd'hui plus que n'importe quand.
Elliot de Faramond ne croit pas une seconde à la promesse du gouvernement lituanien de limiter le danger de ces armes. Impossible, ces bombes explosent en vol et se dispersent sur de vastes zones. Vilnius réfléchit déjà à quitter une autre convention, celle sur les mines antipersonnelles, des armes qui font elles aussi des ravages parmi les civils.
Julien Chavanne. En Syrie, l'Observatoire des droits de l'homme parle des plus violents affrontements depuis la chute de Bachar el-Assad. Ce jeudi, 16 membres des forces de sécurité ont été tués dans des combats avec des partisans du président déchu. De leur côté, 28 hommes en armes ont été tués. Ça s'est passé dans la région côtière de Latakié, au nord-ouest bastion de Bachar el-Assad. Un couvre-feu a été décrété jusqu'à vendredi, 7h temps universel. Par ailleurs, après l'Union européenne, Londres a annoncé lever ses sanctions contre une vingtaine d'entités syriennes, dont la Banque centrale et des secteurs bancaires et pétroliers. Quand la course à l'espace n'est plus seulement l'affaire des nations, alors qu'Américains et Chinois se sont fixés pour objectif de remettre le pied sur la Lune d'ici la fin de la décennie, les sociétés privées s'en mêlent et se lancent elles aussi dans la course. Nathanaël Vitran, Athéna, une sonde spatiale privée, s'est posée tout à l'heure sur la surface de la Lune.
Athéna, c'est son nom, le robot sonde développé par l'entreprise américaine Intuitive Machines avait décollé de Floride fin février à bord d'une fusée SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk. C'est le deuxième engin spatial privé à visiter la Lune en moins d'une semaine. Dimanche, Blue Ghost, fantôme bleu de la société texane Firefly Aerospace, s'est posé sans encombre sur notre satellite.
Le chemin des étoiles n'est plus réservé aux seules nations.
Ce n'est pas que l'amour de la science qui pousse ces entreprises privées à s'intéresser à la Lune. Il y a à la clé de juteux contrats avec les grandes agences spatiales étatiques. SpaceX vend à prix d'or ses services aux Américains comme aux Européens. Blue Ghost doit explorer la mer des crises dans l'hémisphère nord de la Lune pour le compte de la NASA. Elles espèrent aussi, ces entreprises, se positionner pour une future exploitation des ressources minières, énergétique et même de l'eau du pôle sud lunaire. C'est de cette région convoitée que pourraient partir les futures expéditions vers Mars et au-delà, une nouvelle étape de la conquête spatiale qui se fera peut-être sous pavillon privé.
Et on reste dans l'espace, puisqu'après trois reports, le lancement d'Ariane 6 a bien eu lieu ce jeudi. Elle a décollé depuis Kourou, en Guyane française. À son bord, un satellite militaire embarqué pour le compte de la France. Cette mission hautement symbolique vise à sceller la souveraineté retrouvée de l'Europe spatiale. Et l'Europe du football, à présent, elle continuait ce jeudi. Après la Ligue des Champions, place aux huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. À noter la bonne opération des Lyonnais en Roumanie. Succès 3-1 à Bucarest. Les Basques de la Real Sociedad et Manchester United se neutralisent un partout, tandis que les deux clubs romains, la Lazio et l'AS Rome, l'emportent sur leurs adversaires du jour. Quelques mots pour rassurer les fidèles. Ce jeudi soir, la voix du pape François a résonné, place Saint-Pierre à Rome. Un court message vocal enregistré depuis sa chambre d'hôpital. D'une voix chevrotante, le souverain pontife remercie pour toutes les prières. François est toujours hospitalisé depuis le 14 février. Pour une pneumonie. Enfin, je vous propose de refermer ce journal en musique avec une dose de rap sur RFI. Ça vient tout droit des États-Unis. Dead Channel Sky, c'est le sixième album du groupe alternatif Clipping. José Marinho l'a écouté pour nous. Scanning international space for a satellite
test out of place. Shouldn't be a red light shining on the face of this analyst, but the interface is all solid. Flow supersonic et électronique bruitiste, mais aussi musique expérimentale et industrielle, le mélange de Clipping envoie valser les concepts. En 16 ans de carrière, ce trio californien est devenu le fer de lance d'un rap ambitieux, utilisant des échantillonnages rarement entendus dans le hip-hop comme ici. Côté parole, ce sixième album copieux qui compte 20 titres se veut ouvertement politique. Ennemi juré de Donald Trump, le groupe dénonce les ravages du racisme, de l'homophobie, du patriarcat et aussi la chasse aux immigrés. À coups de textes engagés et ambiance sombre, il évoque une société malade et ne laisse aucun doute sur le fait que l'enfer, c'est bien sur Terre, à l'image de ce titre sur le président des États-Unis. Avec ce nouveau disque, Clipping verse dans un rap radical et maintient la flamme d'un hip-hop insoumis. When it all fell down, God bless the way inflation went ounce. Must have just ate, cause them became pounds. Didn't hesitate, them break themselves down. Like them was late, couldn't wait to get out. Them spread all around the world, the fiends found them. Hopped in the pot,
then beg to get drowned then wanna be sick then bitches munch. Dead Channel Sky, le sixième album de Clipping, ça sort le 14 mars. RFI, il est minuit 10 à Paris. Bonne suite des programmes sur la radio mondiale.